Je suis propriétaire d'un IMOCA, franchement, ça me paraît complètement fou.
On passe pas mal de temps à convaincre.
On sent aujourd'hui l'intérêt des médias pour cette course.
Aujourd'hui, je partirai sur le Vendée Globe avec cette voie.
La première manche de la saison du circuit IMOCA, c'est Capagir Ensemble qui l'a remporté.
C'est la plus belle course que j'ai faite. Ah, ça fait
ouf. Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marsay, produit et réalisé par Audio Tactique.
Ah bah, enfin, le grand air, la lumière du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quête de Globe. Aujourd'hui, on est à Port-la-Forêt, le bateau est fraîchement remis à l'eau, on a fait les toutes premières navigations, et c'est vrai que c'est la transition entre le chantier, ces trois mois et demi de chantier hivernal, et puis la reprise des navigations. On change d'environnement, on passe d'un hangar éclairé avec des bruits de ponceuse, d'aspirateur, un travail très technique, enfin le grand air, la lumière du jour. Et pour passer d'un bateau en chantier à un bateau qui navigue, il y a déjà une très grosse étape. C'est toutes les manutentions qu'on a à faire pour mettre le bateau à l'eau. Donc il faut le sortir du hangar, le passer par la route, ensuite le lever, l'assembler avec sa quille, ensuite mettre l'ensemble bateau puis sa quille dans l'eau et mettre le mât sur le bateau. Et une fois qu'on a remis le mât, on réinstalle toutes les voiles. Voilà, c'est un process qui prend quelques secondes, quelques dizaines de secondes, comme ça expliqué. En vrai, ça prend une semaine à faire pour sortir entre la sortie du bateau du chantier et le bateau prêt à naviguer. Ça prend une semaine. Voilà, là, ça fait deux semaines que le bateau est à l'eau. Donc, on a eu cette semaine consacrée à la remise en route. Et puis, une semaine où on a pu faire quelques navigations. Et c'est vrai que c'est un moment qui est hyper plaisant parce que déjà, on retrouve notre environnement, hein, toute l'équipe retrouve l'environnement marin, tout le plaisir qu'on a à être sur l'eau, à prendre le grand air, à sortir dans cette bête Port-la-Forêt, voir naviguer autour de l'archipel des Glénans. Enfin voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Et puis c'est aussi très satisfaisant parce que tout le travail que toute l'équipe s'est acharnée à pouvoir réaliser cet hiver, prend tout son sens. Lorsqu'on essaye le bateau avec le poids de la quille qui a été légèrement modifié, avec les safrans qui ont été également modifiés, et ça on le sent dès le premier instant où on sort sur l'eau, on borde les voiles, le bateau démarre, on prend la barre, là on a la barre du bateau, et puis tout de suite l'équilibre de barre est plus le même, ça va dans le sens auquel on s'attendait, qu'on voulait atteindre, donc c'est très satisfaisant. Donc c'est vrai qu'on a pu mesurer tout ça, tous ces changements, cet équilibre de barre qui aussi permet encore de continuer d'améliorer le pilotage automatique du bateau. Et puis également toutes les nouvelles voiles qu'on a pu commander cet hiver à Quantum Sails. On a notamment un nouveau J2, donc un grand foc qui est arrivé puis qui est tout neuf, un nouveau petit Genac et puis un nouveau grand Spi. Donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps lors de nos navigations à aller essayer toutes ces nouvelles options qu'on a sur notre bateau. Alors même si c'est pas un bateau tout neuf, il y a des nouvelles options et puis on sent que le bateau progresse. Donc c'est très satisfaisant de pouvoir mesurer l'impact de tout le travail qui a été fait cet hiver sur le bateau. Puisque c'est vrai que ça change considérablement l'attitude et donc les performances du bateau. Et je pense que pour toute l'équipe, c'est une vraie satisfaction de voir ces évolutions aboutir sur le bateau. Cette année, on est très très rapidement dans le vif du sujet parce que habituellement, on a toute une saison sportive pour se préparer à la course majeure. Et il se trouve que cette année, le 28 avril, donc en tout début de saison, on a le départ d'une course transatlantique en solitaire par l'Atlantique Nord, la Transat CIC. Donc de Lorient, départ de Lorient le 28 avril à destination de l'État de New York. C'est un parcours qui est assez atypique, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire. Moi, j'ai dû remonter un peu dans mes archives pour réaliser que j'avais fait finalement une fois. Alors pas en course, pas sur cette course, mais le même trajet géographique. Je l'ai fait une fois en 2009 et c'est vrai que c'est une transat où On est certain de pas passer par les Alizés parce que l'anticyclone des Açores est bien trop sud pour aller le contourner par son sud. Donc c'est une dépression où on va aller affronter les dépressions qui nous arrivent par l'ouest en fait du continent américain et où donc on va avoir des conditions météo qui vont varier très rapidement dans le temps, bah parce que comme on va à l'envers du flux d'ouest, et ben on va vers les changements de météo. Donc il nous arrive, on a une vitesse de rapprochement qui est plus rapide avec les éléments météo, donc ça veut dire beaucoup de manœuvres, beaucoup d'allures avec du vent plutôt de face, plutôt serré, pareil pour la mer. Et puis bah on est au début du printemps quoi, donc c'est une période où l'Atlantique Nord il peut être assez rude. Il y a une zone de glace à éviter parce que les glaces du Groenland en fait à cette époque-là commencent à fondre. Et donc, en fondant, elles migrent vers le sud. Et donc, en migrant, bah, ce sont des icebergs hein, qui dérivent vers le sud. Donc, il y a une zone des glaces qui est assez sud, hein, qui est un petit peu plus sud que la latitude de l'Orient, par exemple. Donc, une course très, très engagée, tour en saison, et sur laquelle on s'appuie bah, sur... la mise en route du bateau qu'on fait actuellement, mais également sur toutes les expériences passées bah, des deux dernières saisons qu'on a accumulées maintenant avec ce bateau. Les enjeux de cette course, ils sont évidemment sportifs, c'est une compétition, mais ça reste une course qui est une course préparatoire au Vendée Globe. Elle est préparatoire de plein de points de vue. Elle est déjà assez importante dans le processus de qualification. Parce que dans le processus de qualification, il y a une contrainte à laquelle aujourd'hui personne n'a répondu. C'est le fait de prendre le départ d'une course en 2024. Voilà. C'est une condition qui nous est imposée par l'organisateur du Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on doit, avant de prendre le Vendée Globe, prendre le départ d'une autre course au calendrier IMOCA en 2024. Et la Transat CIC est la première du calendrier. Donc le 28 avril, quand j'aurai coupé la ligne de départ de cette Transat CIC, j'aurai déjà rempli cette case d'une croix et je pourrais dire ah voilà, une nouvelle pierre en vue du Vendée Globe. Et elle est aussi très importante pour le Vendée Globe parce que moi la manière dont j'aborde les choses, c'est de me dire je serai au départ de cette Transat CIC avec mon bateau dans la configuration dans laquelle je m'imagine être au départ du Vendée Globe. Et donc cette course en solitaire va me permettre de valider les choix ou pas que j'ai fait en vue du Vendée Globe. Donc c'est pour moi un dernier grand galop d'essai à l'échelle transatlantique. Donc quand je dis tout, c'est les voiles, c'est l'avitaillement, c'est le système pour produire l'énergie à bord, c'est le fonctionnement qu'il y a entre moi et l'équipe à terre. Voilà, c'est un énorme galop d'essai pour se dire, ben voilà, le Vendée Globe, on est content de cette configuration-là, ou alors on veut encore pouvoir l'aménager un peu. Mais voilà, c'est ça les principaux objectifs que je me suis fixé pour cette Transat CIC. Alors tout ça serait impossible sans les partenaires du projet, sans tous les partenaires du projet. Et donc, ce collectif Cap Agir Ensemble va bientôt se réunir le 24 avril prochain en marge du village de la Transat CIC. On a encore un temps fort avec tous les partenaires. Donc c'est vrai que moi je me réjouis de pouvoir vous revoir toutes et tous, de pouvoir échanger, se voir physiquement, partager les progrès du projet, et aussi se faire rencontrer certains d'entre vous qui peut-être ne se connaissent pas encore directement. Donc voilà, j'ai cette date qui est notée maintenant dans mon agenda depuis un petit bout de temps, et c'est avec grand plaisir que j'attends tous mes partenaires, en tout cas le maximum possible, à Lorient le 24 avril pour une journée je dirais aussi sympathique que les précédentes qu'on a eues ensemble, mais sur un format un petit peu différent, parce qu'on sera à Lorient et il faut savoir qu'à Lorient il y a un grand nombre de nos partenaires techniques qui travaillent et donc ils vont pouvoir nous recevoir et puis également présenter leur cœur d'activité et les raisons pour lesquelles on travaille avec eux au quotidien. Alors, il y a un autre sujet dont je voulais également vous parler, qui me tient à cœur parce que j'y ai consacré un petit peu de temps ces dernières semaines. Si vous suivez les courses à la voile, les courses au large, vous avez certainement vu apparaître sur les cartographies des zones rosées ou bien grisées qui sont interdites à la navigation parce qu'il y a des mammifères marins. Et c'est vrai qu'en tant que marin, on est forcément passionné par les océans et donc la faune et puis la flore qui habite ces océans. C'est vrai qu'à chaque fois, qu'on rencontre des grands mammifères marins, des grands ou des moins grands, hein, même quand on a la chance de naviguer, de voir des dauphins, on en voit très régulièrement. C'est une vraie chance. Et puis des rencontres avec des mammifères marins plus gros, des baleines, c'est aussi des instants magiques. Et à la fois, c'est vrai qu'il faut qu'on cohabite avec ces animaux dans la pratique qu'on a de notre sport. Et donc, il a paru assez normal de se dire, s'il y a des zones où il y a des concentrations de mammifères marins, ce serait peut-être intéressant de réfléchir à comment on peut les éviter ou bien naviguer dans ces zones, mais en étant respectueux de ces animaux. Et donc, ces zones dites interdites ou pour protéger les mammifères marins, elles ont quand même une répercussion très importante sur notre manière de naviguer parce qu'elles peuvent, par exemple, elles nous contraignent dans nos choix de route. Elles peuvent nous empêcher, par exemple, de prendre certaines routes qui pourraient nous permettre d'échapper à du mauvais temps ou nous éviter de passer dans de la mer formée. Et en fait, ces zones, elles remettent vraiment en question certaines de nos stratégies de course, quoi. Et donc, c'est vrai qu'en travaillant la météo du Vendée Globe cet hiver, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment... un intérêt déjà environnemental à aller protéger ces mammifères marins, bien évidemment, mais deux aussi de réfléchir de la manière la plus avancée possible à comment aborder ces zones, à savoir est-ce qu'il faut les délimiter et vraiment interdire la navigation ou alors est-ce qu'il faut réfléchir à naviguer dans ces zones mais à des vitesses plus réduites. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse à ces questions, en tout cas pas encore. Mais j'ai souhaité, par engagement, porter ma voix, porter mon avis et le donner à la classe IMOCA, le donner au directeur de course des différentes épreuves et du Vendée Globe pour qu'on arrive à une solution qui soit la plus respectueuse et puis la plus intéressante sportivement également. Donc voilà, je me suis un peu impliqué sur ce sujet-là et qui fait aussi écho aux discussions qu'on a pu avoir lors de la dernière conférence de presse où la SEM Vendée, donc l'organisateur du Vendée Globe, nous a proposé un partenariat avec l'UNESCO pour embarquer des mini-stations océanographiques. Donc je me suis également porté volontaire pour ce projet qui va démarrer, qui prend un petit peu de temps à se lancer, mais qui va démarrer, qui sera opérationnel pour le Vendée Globe, pour lequel mon équipe va mettre des ressources à disposition parce que c'est du temps d'intégrer ces solutions-là à bord, de voir où est-ce que la station va être placée, comment on va pouvoir la fixer, assurer les transmissions de données entre le bateau et la terre. Et puis, il y a une partie aussi également d'investissement matériel qui nous pousse à aller chercher des partenaires, des nouveaux partenaires pour pouvoir intégrer ce volet océanographique à notre projet de course au large. Donc, si jamais certains d'entre vous sont intéressés pour nous rejoindre sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Alors, si vous êtes des auditeurs, auditrices habitués au podcast, vous connaissez l'engagement que j'ai à travers le projet à Handicap Agir Ensemble, qui est le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique. En ce moment, se tient un stage de voile qu'on a initié depuis maintenant 2 ans. Ça me fait très plaisir que ces stages perdurent, évolue et s'améliore aussi dans le temps. Et puis SM, parce que c'est vrai que les différents instituts médico-éducatifs qui sont en lien avec l'ADAPI de Loire-Atlantique sont preneurs. En fait, ils ont envie de pouvoir emmener leurs jeunes sur ces stages de voile, que les familles nous font des retours qui sont très souvent assez élogieux. Donc c'est vraiment plaisant. Et donc ces stages de voile qu'on initie en partenariat avec l'école de voile des Glénans, il y en a un en ce moment. Je fais tout pour m'y joindre. J'espère que je pourrai y être présent parce que c'est vrai que à chacun d'entre eux, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et je sais que quand je reviens, je me dis, ah, c'est, je suis content. En fait, je suis vraiment content de pouvoir faire ça à travers mon projet de course au large. Et puis, il y a une autre chose qui m'a fait extrêmement plaisir lorsqu'on a sorti les nouvelles voiles la semaine dernière. C'est de voir à quel point on avait réussi tous, hein, tous les partenaires du projet, que je remercie, hein, que je profite pour vraiment les remercier, à donner de l'espace de visibilité au fonds de dotation. Et grâce à nous tous, en fait, Handicap Agir Ensemble, l'ADAPEI de l'Atlantique sont très bien représentés dans nos voiles, vont être très visibles. Et donc, ça participe à l'impact positif qu'on souhaite avoir avec ce projet. Donc là aussi, une grande satisfaction et un grand merci. Merci à toute l'équipe avec laquelle je travaille au quotidien et tous les partenaires qui rendent ça possible. Alors, dans les prochaines semaines, l'actualité va être dominée par cette Transat CIC dont je vous ai déjà parlé. Néanmoins, il y a quelques dates quand même à retenir et à noter dans l'agenda. Alors, pour ceux qui ont la chance de venir nous voir sur le village, il y a quand même une semaine d'animation avec des chouettes animations. Le 23, on ira faire le tour de l'île de Groix. Donc, il y aura tous les bateaux qui iront faire le tour de l'île de Groix. J'aurai la chance d'accueillir un équipage foussier pour cette navigation. Le 24, la fameuse journée partenaire lors de laquelle le parrain du bateau, Paul Ancet, qui est accompagné par l'ADAPEI de l'Atlantique, se joindra de nouveau avec nous. Et je suis très content de savoir que je vais te voir, Paul, à cette occasion. Et voilà, le 25, il y aura également la présentation des skippers sur le village de la Transat. Et puis, bien évidemment, le 28, le grand départ vers l'État de New York. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de ce podcast Quête de Globe, lors duquel je pourrai vous raconter tout simplement cette Transat CIC et ce qui s'est passé dans les moindres détails à bord. Voilà, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le relayer, à liker, à le partager, à nous laisser vos commentaires et à le diffuser autant que vous pouvez autour de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut !